Radio Vatican, France et Afrique.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, ravis de vous savoir à l'écoute de Radio Vatican. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de notre programme qui commencera par la semaine du pape, au cours de laquelle nous reviendrons notamment sur l'état de santé du Saint-Père. Il est hospitalisé depuis le 14 février souffrant d'une pneumonie bilatérale. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, samedi 8 mars, la Fondation Talita Kum lance un nouvel appel à l'action afin de lutter contre la crise mondiale de la traite des personnes. Dans un communiqué, le réseau international demande au gouvernement, aux institutions et aux particuliers de toute confession et de tout horizon d'agir dans la lutte contre la traite des personnes. Au Tchad, la hausse des grossesses précoces préoccupe le centre de santé Sainte-Thérèse de Calcutta de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja dans l'archidiocèse de N'Djamena. Ce centre vient d'organiser une causerie débat portant justement sur le thème des grossesses précoces. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les tests liturgiques du premier dimanche du temps du carême, vous entendrez le père Apollinaire Chibaka Chikongo, professeur de bioéthique et recteur de l'université officielle de Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo. Il reviendra sur la 30e Assemblée générale 2025 de l'Académie pontificale pour la vie qui a eu lieu du 3 au 5 mars à Rome sur le thème « La fin du monde ». Crise, responsabilité, espoir.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Commençons tout de suite par la semaine du pape. Hospitalisé depuis le 14 février à la polyclinique Gemelli à Rome pour une pneumonie bilatérale, le Saint-Père a poursuivi sa thérapie. Le point sur l'état de santé du souverain pontife, les prières quotidiennes pour son rétablissement depuis la place Saint-Pierre à Rome, la messe d'entrée en carême au Vatican ont notamment marqué cette semaine qui s'achève. Fabrice Bangendekere.
Merci Françoise. Toujours hospitalisé à la polyclinique Gemelli, le pape François a passé une nuit tranquille et se repose. C'est ce qu'a rapporté ce matin de samedi 8 mars la salle de presse du Saint-Siège. Hier, François a alterné les moments de prière et de repos et poursuivi ses thérapies, y compris la physiothérapie respiratoire. Il a eu recours à la ventilation mécanique non invasive la nuit et à l'oxygénation à haut débit pendant la journée à l'aide des canules nasales. Vendredi soir, comme annoncé dans un communiqué, il n'y a pas eu de bulletin médical compte tenu de la stabilité du tableau clinique. Depuis la polyclinique Gemelli, le pape a envoyé un message délivré par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin aux participants du pèlerinage du Mouvement pour la vie qui fête le 50e anniversaire de leur fondation. François dit reconnaître la valeur du service que ce mouvement rend à l'Église et à la société, le remerciant pour les pages d'espérance et de tendresse qu'il contribue à écrire dans le livre de l'histoire et qui restent indélébiles, notamment dans la proximité avec les mères en difficulté à cause des grossesses difficiles ou inattendues. Et le rosaire pour le soulagement du Saint-Père se poursuit sur la place Saint-Pierre. Vendredi soir 7 mars, c'était au tour du cardinal coréen Lazare Heung-se-kyu, préfet du dicastère pour les clergés de la conduire. Le cardinal Yu a souligné que la Vierge, qui a participé de manière unique au mystère de la croix du Christ, est l'icône parfaite de la maternité de l'Église à laquelle tout baptisé doit correspondre. Au début de la récitation du rosaire jeudi, un court message audio du pape François a été diffusé où il remercie tous les fidèles et hommes de bonne volonté pour les prières qui lui sont adressées. Nous vous proposons de re-suivre le pape.
Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous récitez pour ma santé sur la place. D'ici, je vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous protège. Ce ne sont que quelques mots, mais ce sont les premiers que les fidèles ont pu entendre depuis l'hospitalisation du pape François le 14 février.
Mercredi, la traditionnelle procession de la basilique de Saint-Anselme vers la basilique Sainte-Sabine à Rome, habituellement conduite par le pape, a été cette fois-ci présidée par le cardinal Angelo De Donatis, pénitencier majeur. François avait quand même préparé l'homélie pour la messe qui devait suivre, lue par le pénitencier majeur. Le Saint-Père a insisté sur la symbolique que revêtent la mémoire de ce que nous sommes, mais aussi l'espérance de ce que nous serons, prédisant sa certitude que le Seigneur balayera toujours les cendres de la mort pour nous faire resplendir d'une vie nouvelle. Dans la vidéo de présentation de l'intention de prière pour ce mois de mars, tournée avant son hospitalisation et rendue publique mardi, le pape François invite l'Église universelle à prier pour que les familles divisées puissent trouver dans le pardon la guérison de leurs blessures, en redécouvrant aussi dans leurs différences la richesse mutuelle. Face aux difficultés causées par les différences au sein des familles, le Saint-Père assure que le pardon renouvelle toujours la famille et permet d'être libéré de la tristesse et surtout du ressentiment. Nous rêvons tous d'une famille belle et parfaite. Mais les familles parfaites n'existent pas, chaque famille a ses problèmes, mais aussi a ses grandes joies, insiste François.
Merci à vous Fabrice. Le Saint-Père qui a nommé samedi le Père Victor Luis Kemacha, jusqu'à présent définiteur général de l'Ordre des Frères Mineurs Franciscains pour l'Afrique, évêque du diocèse de Bafata en Guinée-Bissau. Né le 27 avril 1967 à Kumura, l'évêque nommé a été ordonné prêtre le 2 mai 1998 à Noma en Guinée-Bissau. Depuis le début de son hospitalisation le 14 février, de très nombreux messages de proximité et initiatives de prière ont lieu pour le rétablissement du Saint-Père. Au Rwanda, après des initiatives diocésaines, à partir de ce dimanche 9 mars, au niveau national, dans une prière spéciale, avant la bénédiction finale, les fidèles réciteront de tout cœur trois Ave Maria par l'intercession de Notre-Dame de Kibéo. Et cette autre information pour poursuivre, le cardinal Michael Czerny, préfet du dicastère pour le développement humain intégral, présidera dimanche 9 mars, place Saint-Pierre, la messe de clôture du jubilé du monde des volontaires, cinquième événement jubilaire du 8 au 9 mars. Cet événement réunit environ 25 000 participants provenant de plus de 100 pays. Pour nos auditeurs sur le continent africain, vous aurez la possibilité de suivre le déroulement de cette messe sur la fréquence dont de côte, 15 565 kHz, mais aussi via le site internet vaticannews.va, YouTube et Facebook. Chrétiens et musulmans, ce que nous espérons devenir ensemble, c'est le thème du message du dicastère pour le dialogue interreligieux publié vendredi à l'occasion du Ramadan et en vue de la fête de l'Aïd el-Fitr. Ce message, signé par le cardinal Georges Jacob Kouvakad, invite à la transformation intérieure pour que chacun dans sa tradition spirituelle puisse œuvrer au service de la justice et de la paix. La communauté internationale a célébré samedi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À l'occasion de cette journée, la fondation Talitha Koum a lancé un nouvel appel à l'action afin de lutter contre la crise mondiale de la traite des personnes. Nous avons choisi cette journée pour lancer notre engagement à lutter contre la traite des personnes, poussé par le fait alarmant que 70% des victimes de la traite sont des femmes et des filles, selon les données de l'ONU, a déclaré sœur Abby Aveline, coordinatrice du réseau Talitha Koum international. Concernant toujours les femmes, des efforts sont également à poursuivre pour la protection des droits des jeunes filles au Tchad, où l'on enregistre une hausse des grossesses précoces. Une situation qui préoccupe le centre de santé Sainte-Thérèse de Calcutta de la paroisse Bienheureux, Isidore Bakanja, dans l'archidiocèse de N'Djamena. Cette structure a organisé jeudi 6 mars, à l'intention des élèves du complexe scolaire Saint-Jean-Paul II, une causerie débat autour justement du thème des grossesses précoces. Depuis N'Djamena, Edouard Takadji.
Les constats sur le terrain est amer non seulement dans l'archidiocèse d'N'Djamena, mais aussi les autres diocèses du Tchad. Bon nombre de filles ne parviennent pas à franchir parfois les cycles primaires ou encore les premiers cycles du collège. Amener les élèves, surtout les filles, à prendre conscience que le personnel du centre de santé Sainte-Mère Teresa de Calcutta de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja a décidé de se rendre à l'école Saint-Jean-Paul II pour échanger avec les élèves du établissement scolaire. Une des panélistes, Madame Sainte Karine, sage-femme au centre de santé Sainte-Mère Teresa de Calcutta, a fait comprendre que le centre de santé et l'établissement Saint-Jean-Paul II se trouvent tous les deux sur le territoire de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja et attirent l'attention des femmes, raison pour laquelle les sages-femmes et infirmières du centre ont décidé d'échanger avec leurs enfants. Elle a ensuite défini la grossesse précoce comme étant une grossesse contractée par une jeune fille n'ayant pas l'âge. Cette grossesse précoce constitue, d'après elle, un obstacle pour les études de cette dernière et elle est aussi la cause du décès de certaines jeunes filles. Le deuxième panéliste, Birwe Etienne, responsable du 10 centre, a orienté son attention sur le comportement adopté chez les jeunes filles. Pour lui, l'abstinence est la seule arme qui aidera les jeunes filles à bien préparer leur avenir. Edouard Takadine Djamena pour Radio Vatican.
Autre articulation de cette édition, l'actualité sociopolitique africaine. La République démocratique du Congo offre 5 millions de dollars de récompense à toute personne permettant l'arrestation des figures du groupe armé M23 qui s'est récemment emparé de deux grandes villes de l'est du pays, a annoncé le ministère congolais de la Justice dans un communiqué daté de vendredi 6 mars. Notons également que 35 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village de l'est de la République démocratique du Congo en conflit par des miliciens pro-gouvernement ont indiqué vendredi des sources sécuritaires et locales. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a appelé au calme vendredi en assurant que son pays ne retombera pas dans la guerre après qu'un hélicoptère de l'ONU a été ciblé par des tirs ayant tué un membre de l'équipage. Place à présent au père jésuite Antoine Curiel qui nous introduit à la méditation avec les textes liturgiques du premier dimanche de Carême.
Acceptons-nous que le Seigneur nous donne la vie? Sans doute allons-nous tous répondre oui. Mais ce oui est-il donné sans réserve ou bien est-il attaché à des conditions? Ces questions émergent à l'écoute des textes de ce premier dimanche de Carême. Dans le livre du Deutéronome, Moïse indique au peuple comment il doit offrir au Seigneur les prémices de ses récoltes. Le peuple recevra ses fruits et les déposera devant l'autel du Seigneur. Il fera ensuite mémoire de ce qu'il a vécu, comment il est descendu en Égypte pour y vivre en émigré, comment, alors qu'il devenait une nation nombreuse, il a effrayé les Égyptiens qui l'ont réduit en esclavage, comment il a crié vers le Seigneur et comment le Seigneur l'a délivré de l'oppression pour le conduire vers un pays décrit comme ruisselant de lait et de miel. Cette célébration montre que le peuple reconnaît qu'il tient sa vie et ce qui le soutient dans sa vie du Seigneur lui-même. Il rend grâce à ce Seigneur qui lui donne la vie. Dans l'extrait de la lettre aux Romains que nous entendons aujourd'hui, Paul souligne que le message de la foi, la reconnaissance que Jésus est Seigneur et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, habite dans le cœur des croyants au point de les transformer en un seul peuple, un peuple dans lequel s'estompent les distinctions entre juifs et païens. Le message que transmet Paul aux Romains s'adresse à nous aussi, à nous qui vivons près de 2000 ans plus tard. Accepter ce message de la foi nous ouvre à une vie nouvelle, où les tensions liées à nos différentes origines culturelles ou religieuses sont dépassées. Dans le récit des trois tentations au désert que l'apôtre Luc rapporte dans l'évangile proclamé ce dimanche, le diable interpelle Jésus par deux fois, sous le mode « Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci », et une autre fois, sous le mode « Si tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire devant moi qui suis le diable, alors je te donnerai cela. » Jésus refuse de soumettre à quelque vérification la dignité de Fils de Dieu qu'il sait avoir. Il n'utilise pas cette dignité à son profit, pour satisfaire sa faim, ou se prouver à lui-même que Dieu ne le laissera pas succomber à ce geste insensé qui consiste à se lancer dans le vide depuis le sommet du temple. Jésus refuse également d'obtenir le pouvoir que prétend lui octroyer le tentateur au prix d'un acte d'allégeance. Il reconnaît ainsi Dieu comme unique source de vie et il ne soumet son oui à aucune condition. Son oui est sans réserve. En ce premier dimanche de Carême, nous pouvons à notre tour examiner la nature du oui que nous disons au Seigneur. Le prononçons-nous pour échapper à la peur, pour nous soumettre devant un tout-puissant intimidant, pour acquérir un allié face aux épreuves de la vie, ou encore pour d'autres raisons? Ou bien le prononçons-nous parce que nous reconnaissons que notre vie est fondamentalement relation, relation à un Dieu auquel nous nous adressons en l'invoquant comme Père? Cette relation transforme notre expérience spirituelle et bouleverse nos rapports avec ceux que nous pouvons appeler nos frères et sœurs parce que eux aussi peuvent se tourner vers le Seigneur en le désignant comme Père. Puissions-nous, tout au long de ce temps de carême, nous éloigner de toute relation à Dieu empreinte de marchandage. Je t'aime à la condition que tu me donnes ceci. Puissions-nous entrer dans une relation de reconnaissance à l'égard de ce Dieu que nous nommons notre Père. Dieu nous conduit vers une vie nouvelle, donnée en Jésus mort et ressuscité. Puissions-nous accepter, au plus profond de nous-mêmes, cette vie nouvelle dans notre quotidien et parcourir ainsi un véritable chemin de conversion tout au long de ce temps de carême.
Notre invité du jour est le père Apollinaire Chibaka Chikongo, professeur de bioéthique et recteur de l'université officielle de Mbujimayi en République démocratique du Congo. Il a pris part du 3 au 5 mars à l'Institut pontifical patristique Augustinianum à Rome à l'Assemblée générale 2025 de l'Académie pontificale pour la vie qui avait pour thème la fin du monde, crise, responsabilité, espoir. Dans un entretien qu'il a accordé à Radio Vatican, à l'issue de cette rencontre, le père Chibaka nous partage notamment ses impressions sur le déroulement des travaux.
On a pu, grâce à l'expertise de plusieurs membres et de plusieurs conférenciers invités, aborder les grandes questions que soulève aujourd'hui la science par rapport à la fragilité non seulement de notre vie, mais la fragilité de l'ensemble de la création, des univers tels qu'ils sont connus du point de vue scientifique. Et se poser des questions, surtout en cette ère où depuis plus ou moins 2-3 siècles, l'être humain est le premier responsable de la, si on peut dire, de la destruction de l'environnement, avec différentes crises. Alors c'est ça la grande question sur laquelle on s'est penché à partir de découvertes scientifiques, de progrès de la science, mais aussi des approches théologiques, des approches d'éthique et de philosophie. Alors j'y ramène une impression tout à fait positive. J'espère revenir encore prochainement pour d'autres travaux.
Vous ramenez, mais vous avez aussi apporté quelque chose en tant que théologien dans un pays qui est en crise, où non seulement l'environnement, mais aussi la race humaine est en situation de déperdition.
Il faut dire que, et ça peut se comprendre, d'une manière un peu générale, beaucoup de rencontres qui se déroulent abordent des questions, si on peut dire, du Nord global, le Grand Nord, l'Occident, les questions des sociétés qui s'y posent, compte tenu de l'évolution de la science, et souvent les questions, si on peut dire, du Sud global, ou les questions de l'Afrique, c'est des questions parfois oubliées. C'est vrai qu'il y a des manières de faire, de travailler, qui sont nées dans un contexte social donné et qui sont conditionnées justement par l'évolution de ce contexte-là. Alors il faut que peut-être les sociétés du Sud, les sociétés africaines, parviennent aussi à lever un peu la voix pour se faire comprendre. Souvent, c'est des questions évoquées, mais évoquées de manière un peu globale ou passagère. Poser le problème de l'accompagnement de personnes âgées, effectivement, qui a été abordé, expliquer un peu la difficulté de personnes âgées, la solitude et ce qu'ils attendent de la société. C'est des problèmes qui peut-être ne se posent pas dans notre société à nous. Nous ne sommes pas dans des sociétés de solitude. Mais nous évoluons quand même dans des sociétés, si on peut dire, de la culture de la vie, mais aussi une société où règne la mort. Pour parler effectivement de mon pays, la République démocratique du Congo, qui depuis 30 ans est dans une situation de crise permanente, avec de millions de morts, avec des millions de déplacés internes, avec des millions, des milliers de femmes dont la dignité est piétinée, des femmes violées. Et donc la question de la vie abordée à partir des situations, des contextes particuliers, à des notes un peu plus particulières. Et ce serait donc mieux dans une certaine mesure que les participants de ces pays-là apportent ces questions-là dans des assemblées comme celle-là.
Voilà, le père Apollinaire Chibaka Chikongo, professeur de bioéthique et recteur de l'université officielle de Mbujimayi en République démocratique du Congo, interrogé par Marie-Josée Mwando Boboalo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est ici que prend fin cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Très bonne suite de temps de carême à tous et à toutes. Au revoir.